Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste pour ce cinquième hors-série consacré à la convention Eclipse. Et donc maintenant je reçois...
Vincent Mathieu, plus connu sous le nom de Tlonukbar, auteur de Cats.
Donc j'ai connu ton jeu il y a fort longtemps, comme nous avons pu en discuter tout à l'heure. Donc c'était à la première CJDRA
Moi je suis arrivé, j'ai fait la CJDRA de 2005, donc je pense que ça devait être la quatrième.
La quatrième, voilà.
C'est... où j'ai, à la fin de la quatrième, j'ai maudit le fait de pas avoir fait les trois précédentes, parce que c'était vachement bien. Et
alors,
voilà,
raconte-nous un petit peu, parce que c'est vraiment, comment t'es venu à la CJDRA?
Alors, en fait, j'y suis venu totalement par hasard. C'était pas, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, mais c'était pas loin, quoi. Uh-huh. En fait, ce sont des amis qui m'en avaient parlé, parce que Cats tournait depuis quelque temps, mais pour un groupe d'amis restreint, on va dire.
Oui, voilà.
Et j'ai une amie qui m'a dit, mais tu sais qu'il existe la convention des jeux de rôle amateurs, tu devrais le présenter, à mon avis, ça va faire un tabac.
Mm-hmm.
Donc je lui ai dit, sans blague, tu déconnes. Puis finalement, je me suis un peu renseigné, et j'ai eu plusieurs amis qui m'ont dit, mais oui, tu devrais y aller, tu verras, c'est super. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, je me suis dit, je vais aller présenter le jeu. C'est qui était super intimidant parce que,
oui,
parce qu'on m'a dit, bah voilà, tu vas passer devant un amphi où il y a plein de gens qui vont te regarder, et en moins d'une minute, il va falloir que tu dises pourquoi c'est mieux de jouer à ton jeu que celui du petit copain d'à côté.
Oui, donc il faut un petit peu rappeler comment se passait les parties. C'est qu'en fait chaque auteur de jeu venait présenter le pitch de son jeu tout seul sur la scène au milieu d'un grand amphithéâtre très intimidant, et c'est vrai que ça devait pas être facile.
Alors c'était pas facile du tout, parce que bon, il faut avoir le bagou nécessaire pour parler à plus de 200 personnes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est savoir de quoi tu vas causer.
Oui.
En même temps, c'était super intéressant parce que, avant de venir, forcément, tu allais te dire, mais qu'est-ce que je vais dire pour faire jouer les joueurs à mon jeu?
Uh-huh.
Et donc, en quoi mon jeu, il se différencie des autres jeux? Quels sont ses points forts? Sur quoi je vais parler, etc.
D'accord.
Mine de rien, c'était déjà la première étape sur comment faire parler de son jeu et
oui,
comment le mettre en avant par rapport à tout ce qui existait.
Alors, eh bien, justement, maintenant que tu es rodé, tu l'attendais, non?
Oui, je l'ai vu venir.
Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Cats?
Cats, c'est un jeu de rôle de science-fiction humoristique et contemporain. Contemporain d'abord, parce que ça se passe dans l'univers de tous les jours.
Oui.
Donc c'est très facile d'appréhension.
Uh-huh.
D'humour, parce que ça se prend absolument pas au sérieux, bien évidemment.
Uh-huh.
Et de science-fiction, parce que dans l'univers de jeux de Cats, on part du principe que l'homme n'est pas la seule race intelligente sur Terre, c'est qu'il y a aussi le chat, et qu'en plus que le chat est apparu avant l'homme, et que c'est le chat qui est à l'origine de l'apparition de l'homme sur Terre.
Oh.
Voilà. Après, en partant de ce postulat... on explique pourquoi les chats ont créé l'homme, par jeu et par envie d'avoir des serviteurs pour se concentrer sur des choses essentielles de la vie qui sont manger, dormir et se reproduire accessoirement.
Et se battre.
Et se battre. Et pourquoi toutes les expériences des chats n'ont pas été couronnées de succès, et l'une d'elles a été très catastrophique vu qu'elle a précipité l'île sur laquelle vivaient les chats intelligents dans les flots.
Oui.
Donc les rares survivants se sont retrouvés avec plein d'hommes qui avaient essaimé les continents en attendant.
Oui.
Et donc en infériorité numérique flagrante.
Uh-huh.
Et les chats se sont dit, mon Dieu, mais nos esclaves vont se retourner contre nous, vont nous mettre la pâtée, et cette fois c'est nous qui allons la manger, la pâtée, jusqu'à la vie. Donc il faut trouver quelque chose et vite, et comme le chat est quand même tout sauf stupide, il s'est dit, mais un esclave qui ne sait pas qui est esclave, il ne va pas chercher à se révolter, surtout
oui,
contre un maître qu'il ne connaît pas. Donc on va faire en sorte que les hommes ne sachent pas qu'ils sont esclaves, et on va leur faire croire qu'ils sont réellement tout seuls sur la planète et que nous, on est des vulgaires animaux. Voilà, d'où le titre Cats, la mascarade.
Alors, donc tu es parti de cette version amateur. La gestation de la version pro a été plutôt longue.
Oui, elle a été longue, parce qu'en fait, le plus long dans le développement d'un jeu de rôle, en fait, c'est les tests.
Oui.
C'est pas le tout de faire un jeu, c'est ce qui est le plus facile, en fait. Le plus intéressant après, c'est de voir que ça marche.
Oui.
De voir que les mécaniques sont bien huilées, bien rodées, uh-huh. que l'univers de jeu est cohérent, que tout s'emboîte très bien,
oui.
et que les gens rentrent très facilement dedans ou pas.
D'accord.
Donc voilà, ça prend la plus grande partie du temps. Le meilleur endroit pour tester les jeux, c'est d'aller dans une convention, parce que là, généralement, il y a des rôlistes, entre autres, dont certains qui veulent tester des jeux. Et donc, quand tu te pointes en disant, dis donc, ça vous dirait de jouer des jeux où on joue des chats, il y a pas mal de gens qui disent oui, pourquoi pas. Et ben, tu peux avoir à la fin de la partie le feedback tout de suite des joueurs qui te disent, ah, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé,
oui.
ça c'était génial, ça passait moins bien, etc. Uh-huh. Et à force de compiler tout ça, ben, tu sais sur quelle piste tu dois travailler ton jeu, tu mm-hmm. sais que ça il faut virer, ça non. Ben, par exemple, pour la version amateur de Cats, il y avait les chats qui avaient le pouvoir de pyrotechnie pour allumer le feu. Mais bon, le chat et le feu, ça va pas très bien ensemble, ça passe pas. Donc, à force de retravailler ça, ben, finalement, c'est devenu un pouvoir d'allergène où ils peuvent carrément embêter les humains avec ça. Ça passe déjà nettement mieux, ça parle plus aux joueurs.
Alors, par exemple, c'est un pouvoir qui marche très bien sur Cyril, qui normalement fait le podcast avec moi. Dès qu'il vient chez moi, il pleure et il éternue.
Ah, c'est parce que le chat l'a pris en grippe, en fait, donc il n'arrête pas de lui faire ça, c'est normal.
Ah non, il se contente de rester allongé, de le regarder.
Ah mais c'est tout à fait... Il n'y a aucune manifestation extérieure. Hein. Le chat déclenche, mais bon, c'est tout. Alors, regarde, doit le regarder avec un regard assez amusé.
Oui, extrêmement machiavélique. Alors, étant moi-même possédé par un chat... Je suis très sensible à cet univers de jeu. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on fait dans une partie typique que font les chats en fait?
Alors, on va dire que dans une partie typique, je m'excuse hein, parce que j'ai la voix qui commence à partir à force de maîtriser tout le temps.
Pas de souci.
Donc, dans une partie typique, la base en fait, c'est les joueurs interprètent des agents. Donc la crème des félins, les James Bond chats,
oui.
Qui sont au service du Conseil de Paris, dont le but premier est de maintenir la mascarade et d'empêcher qu'elle vole en éclat. Maintenant, ça, c'est, on va dire, c'est l'excuse royale pour faire jouer les joueurs.
Oui.
Étant donné qu'il y a plein de possibilités, vu que la politique féline qui s'appelle le grand jeu fait que tous les chats se tirent dans les pattes et donc il y a plein d'autres possibilités pour faire jouer les joueurs.
D'accord.
Servir les vues d'une faction politique donnée ou servir les vues d'une lignée donnée ou tout simplement essayer de se débarrasser des faveurs qu'on doit et qui sont très embêtantes parce que le chat est individualiste et il déteste devoir quelque chose à quelqu'un. Enfin bref, il y a énormément de possibilités par rapport à ça.
D'accord. Et donc, il y a toute une partie politique dans Cats.
Oui, tout à fait. Il y a une partie politique en fait parce que... grosso modo, Cats la mascarade, c'est sa parodie évidemment.
Oui, vampire.
Entre autres, mais pas que. Il y a tout l'univers du jeu qui se mettait en place de par lui-même.
Oui.
Et l'intérêt en fait, la question qu'on m'avait posée, c'est que le chat étant foncièrement individualiste, qu'est-ce qui faisait que plusieurs chats s'associaient ensemble pour faire quelque chose.
C'est vrai que c'est plutôt étonnant.
Donc il a fallu en créer quelque chose qui fasse que les chats, de temps en temps, soient pas obligés, mais comprennent que l'union faisant la force, de temps en temps, il vaut mieux faire les choses ensemble que tout seul.
D'accord.
Mais même si ça les ennuie profondément de se voir s'allier à un moment. Et donc, c'est pour ça que j'ai inventé le grand jeu de la politique féline, qui, comme tout ce qui est chat, est un grand jeu dans lequel on a le droit de tout faire tant qu'on ne se fait pas prendre.
D'accord.
Qui est bien dans la mentalité chat.
Mm-hmm. Oui, exactement. Alors, comment ça fonctionne?
Alors, comment ça fonctionne? Au côté mécanique de jeu, ça fonctionne à base de D10, en fait. Donc, les personnages sont définis par 4 attributs physiques et 4 attributs mentaux.
Oui.
Sauf que comme on joue à 4, on parlera pas de force, de vigueur ou d'intelligence, mais on va parler de griffes, de poils, de ronron ou de caresses. toutes ces caractéristiques sont échelonnées de 1 à 5, 1 étant très faible, 5 très fort et 3 à la moyenne. Et en fonction de ces caractéristiques, on va en déduire les bases des compétences. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle l'inné. Ça part du principe que si je suis naturellement grand et costaud, quand je vais frapper, je vais faire beaucoup plus mal que si j'étais petit et malingre.
Mmh.
Après, il y a l'acquis. Alors, l'acquis, ça va représenter la fréquence à laquelle j'utilise ma compétence. Là, c'est pas échelonné de 0 à 5, mais de 1 à 5, mais de 0 à 5. En fait, 0, c'est néophyte, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et donc, y a quelques fois où je serais incapable de le faire. Si on me met dans un avion en disant fais le décoller, je vais rester comme un con parce que je saurais pas absolument pas quoi faire. Donc, il y a certaines compétences où il faut au minimum l'avoir fait une fois pour comprendre comment ça fonctionne. Après, il y a un qui est le rang amateur, c'est que j'ai fait une fois dans ma vie, donc je vois à peu près ce que ça donne, mais c'est tout. Deux, c'est connaisseur, c'est que je l'ai fait de temps en temps et pas régulièrement, mais au moins de temps en temps, donc j'ai un peu plus d'informations sur ce que ça fait. Trois, je le fais tous les jours, c'est du style, je conduis ma voiture tous les jours, j'ai pas besoin de savoir comment on fait pour passer les vitesses ou quoi que ce soit d'autre. Quatre, c'est expert, c'est vraiment mon job, c'est vraiment ce que je fais. Et cinq, c'est le niveau sommité, à savoir, j'ai écrit le livre sur la compétence et on vient me voir de l'autre bout de la planète pour me poser la question de comment ça marche.
D'accord.
Et en fonction de la base à partir des attributs et l'acquis, la fréquence à laquelle j'utilise ça, ça va me donner un total avec des éventuels bonus-malus qui vont me dire, dans cette compétence, je maîtrise à tel niveau. Donc après, j'ai une échelle de difficulté qui est échelonnée de 1 à 20.
Ouais.
Si je dois faire quelque chose dont ma base est supérieure à l'échelle de difficulté, je réussis automatiquement, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit.
Ouais.
Si par contre c'est au-dessus, là il y a une part d'inconnu qui fait que je vais peut-être réussir ou pas, et dans ce cas-là on va rajouter le résultat d'un des 10 à ça pour voir si j'y arrive ou pas.
D'accord.
Le petit truc en plus de 4, c'est qu'on rajoute pas qu'un seul des 10 en fait, on va lancer autant de des 10 qu'on a de score en chance. On va choisir le D10 qu'on veut pour voir si on réussit ou pas.
D'accord.
Dans les D10, en fait, il y a le coup des pas de bol et des coups de bol. Alors, le pas de bol, c'est si sur l'un des dés, j'ai fait un 1, je rejette mon dé et je refais un 1, j'ai pas de bol. Donc, j'ai deux conséquences immédiates. Comme j'ai pas de bol, je foire ce que j'étais en train de faire.
Ouais.
Même si j'étais sur le point de réussir, je la foire. Uh-huh. Et comme j'ai pas de bol, mon score de chance baisse parce que j'ai pas de bol. Et la prochaine fois, au lieu de lancer 3 dés pour savoir ce qui se passe, je lancerai
que
2
dés. Mon Dieu, mais c'est affreux.
Par contre, il y a un coup de bol. Donc, si dans ce que je lance mes dés, je fais un 10, si je relance ce 10 et que je refais à nouveau un 10 derrière, c'est un coup de bol. Donc, je réussis tout ce que je voulais faire. Si j'étais un chat dans un avion en flammes qui piquait en vrille et que je décide de passer par le hublot cassé pour saisir le parachute que je viens de voir passer parce qu'il est parti par la dépression, je le réussis, non seulement avec un triple salto arrière, mais avec une grâce féline toute particulière. Et comme j'ai de la chance, dans ce cas-là, mon score de chance augmente. Et la prochaine fois, ça ne sera pas 3D, mais 4D que je vais lancer pour savoir si ça réussit.
Mais alors, les joueurs qui n'ont vraiment pas de bol au dé.
Généralement, ça évolue tellement qu'au bout d'un moment, ça revient toujours à un équilibre. Cela dit, on ne peut jamais descendre en dessous de 1, forcément, parce qu'on lance au minimum un dé.
Oui,
et on ne peut jamais monter au-dessus de 5, parce qu'on ne va pas jeter non plus des brouettes de dé.
D'accord.
Mais okay. Ça rajoute un petit fun dans les parties, et généralement, les joueurs se prennent très facilement au jeu.
Alors, j'avais vaguement aperçu l'histoire des griffes, tout ça, machin. Et pour moi, c'est pas forcément évident ce que ça signifie derrière.
Alors oui, j'ai essayé de trouver quelque chose. À la rigueur, ça va encore parce que les compétences physiques, c'est assez parlant. Griffes, on peut associer ça à la force,
ou le poil combat,
sur la vigueur. Queue, c'est pour tout ce qui est agilité.
Ouais.
Et œil, c'est pour tout ce qui est précision. Donc ça parle un peu. Alors par contre, les caractéristiques mentales, ça, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il n'y a rien pour traduire du mental au niveau félin. Donc il a fallu que je choisisse. Donc le ronronnement, ça a été l'intelligence. Parce que le ronronnement, c'est une caractéristique de chat, évidemment, bien précise. Les caresses, parce que dès qu'on pense chat, on pense caresse, ça a été la volonté.
Ouais.
C'est caresse-moi.
Voilà, c'est ça. Les vibrisses, donc le moustache de chat, ça a été l'intuition.
Ouais.
Et les coussinets, ça a été la sociabilité.
Coussinets, d'accord.
Oui, donc en grosso modo, j'ai pris ce qui caractérisait un chat, donc le gros rendement, les vibrisses, les caresses, les coussinets, et j'ai mis ça pour les caractéristiques mentales.
D'accord. En partie, les chats, ils jouent contre les autres chats, mais par le biais des humains ou...
Alors, pas forcément, en fait. Dans 4, s'il y a des grands méchants, qui ont la particularité de ne pas savoir qui est leur grand méchant à eux. Donc, ce sont des humains qui savent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qui ne savent pas par qui. Cherchent à savoir qui fait ça. Ils cherchent déjà depuis 4 siècles, sachant qu'ils sont passés par à peu près tout. Donc, entre le diable, entre les forces occultes maléfiques, entre les petits gris et les agents communistes. Bref, ils en sont toujours à essayer de déterminer. Ils savent qu'il y a quelque chose. Ils savent qu'il y a un ennemi avec un grand E, mais ils ne savent pas lequel. Évidemment, ils sont bien entendu noyautés par les chats qui sont capables de déterminer ce qui se passe et de le prévenir de ce qui va se passer avant même qu'ils bougent le petit doigt.
D'ailleurs, tu remarqueras que très souvent dans les films, le grand méchant a un chat.
Oui, justement. Alors ça, c'était le grand truc en fait. Je vais faire un scoop en fait. Mais dans James Bond, le grand méchant, c'est pas le grand méchant, c'est le chat qui contrôle
c'est
le grand méchant.
C'est le chat blanc.
Et en regardant les James Bond, à chaque fois que je vois la scène avec le chat blanc,
oui,
je peux vous dire que la manière dont il regarde, on voit très bien que c'est un chat qui contrôle mentalement l'humain. C'est évident. Bon, ça c'était le scoop, ça sert déjà ça. Donc il y a les grands méchants et donc les chats évidemment ne peuvent pas tout faire. Ils doivent respecter la mascarade.
Mm-hmm.
Quoi qu'ils peuvent la violer allègrement tant qu'ils ne se font pas prendre.
Oui.
Mais il ne faut pas qu'ils laissent de traces. Parce que justement, le but des grands méchants, c'est de référencer tous les éléments fantastiques, impossibles,
oui,
improbables,
uh-huh,
à force de recoupage, essayer de déterminer qui est l'ennemi. Donc, il y a quand même une épée de Damoclès sur les chats. Les chats ne,
uh-huh,
peuvent pas tout faire. Donc, ils doivent s'arranger pour violer la mascarade sans que ça se voit et sans qu'on puisse déterminer qui ils sont derrière. Et rien que ça, ça met un petit plus au niveau ludique pour le joueur.
Oui.
Parce que c'est pas je fais ce que je veux comme je veux, c'est,
oui,
je m'arrange pour faire ce que je veux, oui, sans qu'on sache que c'est moi qui l'ai fait.
D'accord.
Mais ça, toujours pour rester dans la mentalité.
Dans la mentalité féline, oui.
Voilà.
Alors, les scénarios.
Alors, les scénarios sur Cats. Alors, il y a différentes pistes, en fait. Je m'étonne moi-même encore trouver encore des pistes de scénarios pour Cats.
Oui.
C'est ce que j'aime bien, d'ailleurs. Donc le scénario de base qu'il y a dans le livre de jeu, c'est il faut sauver le chaton Ryan, qui est une thèse de course à l'échalote pour essayer de trouver un chaton qui a la mauvaise habitude de jouer les Arlésiennes.
Oui.
Et donc ça permet de mettre un peu de pression sur les joueurs qui, uh-huh, doivent agir avec subtilité, mais pas trop. donc ça c'est vraiment le scénario de base qui montre l'univers de jeu pour bien montrer les restrictions, les possibilités, etc.
D'accord. Et justement, au niveau des possibilités vaguement surnaturelles, parce que tu dis qu'il y a une espèce de contrôle des humains, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de vraiment spécial, les chats ?
Alors en fait, les chats ont un avantage par rapport aux humains. Enfin, j'allais dire même, les deux ont des avantages et des inconvénients.
Ouais.
L'humain a l'avantage qu'il a sa main avec son pouce préhensile,
uh-huh,
et il a la technologie pour lui.
Ouais.
À l'inverse, bon, le chat, lui, il l'a pas.
Mmh.
Mais le chat a des talents psychiques que les humains n'ont pas ou que certains humains ont et à très faible niveau,
d'accord,
genre médium, etc.
Uh-huh.
Donc, par exemple, un chat peut voir plus loin que la portée de la vue, même traverser un obstacle pour voir ce qu'il y a derrière un mur.
Ah,
ce qui explique,
d'accord,
que certains chats sont capables de vous voir rentrer avec les courses avant même que vous soyez à portée de vue du chat.
Tout à fait.
Même chose, ils peuvent
tout
entendre plus loin, donc, uh-huh, écouter qu'en effet vous parlez des courses en question, dire que c'était la galère d'être dans le supermarché.
Mm-hmm.
Y a des chats qui peuvent directement utiliser ce qu'on appelle l'effet Schrödinger, qui peuvent se dédoubler et donc faire deux actions en même temps, sachant que leur seule limitation, c'est qu'il ne faut pas qu'un humain le voie, parce que si un humain voit le chat dédoublé,
oui,
ça cause des sacrés problèmes, parce que autant les chats peuvent comprendre l'élément quantique de la chose, autant les,
ouais,
humains n'arrivent pas à se limiter. Donc,
c'est beaucoup trop compliqué pour eux.
Voilà, il y a certains chats qui sont capables de figer le temps.
Ouais.
En fait, c'est pas qu'ils figent le temps, c'est qu'ils agissent beaucoup plus vite. Donc les autres ont l'impression que le temps s'est figé le temps qu'ils agissent.
D'accord.
Et ce qui explique qu'au moment où la porte se ferme, eh ben, le chat qui est dans le fond du couloir se retrouve d'un seul coup dans la cuisine à vous réclamer le poisson. Il y a des chats qui peuvent... les chats parlent naturellement par la télépathie.
Oui.
En plus, la télépathie est un langage universel. Donc, un chat de Vladivostok va comprendre un chat de Tokyo qui comprendra un chat de Ouagadougou, de Paris, etc.
Oui.
Alors que les humains, eux, parlent des borborigmes...
barbares.
Voilà, ils se comprennent pas. Et en plus, ils peuvent faire des faux sens parce qu'ils sont pas capables d'envoyer des images en même temps qu'ils parlent,
oui,
par la pensée. Enfin bref, une horreur. Et certains chats peuvent utiliser un talent psychique de télépathie pour parler dans la tête des humains. Par exemple, il y a des chats qui ont fait ça il y a quelques centaines d'années avec une bergère à Don Rémy qui lui a dit « Lève-toi et va bouter l'anglo hors de France ». Et ça a fait un boxon monstre chez les humains. Ils se sont marrés comme des petits fous, quoi. Donc, il y a plein de possibilités que les chats ont que n'ont pas les humains.
D'accord.
Et donc, l'intérêt, c'est de jouer un personnage qui est foncièrement inhumain.
Oui.
Donc, il y a cette fois, même si on joue un elfe, un orc ou un n'importe quoi, généralement, il a deux pieds, deux bras, une,
oui,
tête.
Uh-huh.
Là, c'est absolument pas le cas. Uh-huh. Là, ouvrir une porte, ça devient très difficile,
oui,
parce qu'on n'a pas de main. Mais il, uh-huh, y a plein de possibilités de passer. On peut s'y téléporter, on peut passer au travers. Il y a plein de possibilités pour,
d'accord,
le chat.
La plupart du temps, on peut miauler et gratter, et ça suffit.
Ça marche aussi, oui. Ou casser les pieds à un humain jusqu'à ce qu'il ouvre la porte.
Oui,
ça,
voilà,
ça peut fonctionner. Il y a une compétence qui s'appelle irriter les humains dans Cats. Donc, ça marche.
Et est-ce qu'ils ont chacun un humain associé ou ce sont des chats indépendants ?
Alors ça dépend. Il y a certains chats qui veulent leur indépendance et qui ne vivent pas chez les humains, donc c'est des vrais chats de gouttière qui vivent dehors. Il y a d'autres chats qui ont des humains par intermittence.
C'est au Malais en fait.
Voilà à peu près. Et il y a des chats qui trouvent qu'en fait vivre avec un humain c'est super confortable.
Oui.
Donc qui vivent avec eux tout le temps, mais qui soit le traitent avec condescendance, soit le martyrisent absolument monstrueusement. Ouais. Ça dépend du chat en question. Ça dépend aussi de sa faction politique.
Oui, d'accord. Ah oui, alors il y a combien de factions dans le...
Alors oui, j'ai parlé de conseil en fait qui
du conseil de Paris, du conseil de Paris,
qui
voilà.
Régit la politique féline ou ce qui dicte ce que doivent faire les chats ou les règles auxquelles doivent obéir les chats,
ouais,
dans une zone géographique donnée. Il y a les lignées qui sont là d'où viennent les chats, donc c'est la lignée des Griffes d'Or qui est une prestigieuse lignée qui contient des milliers de chats, etc. Et les factions politiques en fait ce sont les vues de la société idéal vu par certains félins.
D'accord.
Donc dans les factions politiques, là, il y a une faction qui s'appelle les nihilistes qui disent, oui, que le problème c'est l'humain, donc vous supprimez l'humain, supprimez le problème. Donc leur but c'est d'éradiquer la race humaine sur Terre.
D'accord.
Leur dernière invention en date c'était le sida et ça a marché pas mal, sauf qu'il y a eu un effet en retour qui a déclenché la leucose du chat,
oui,
qui est, ah, là, et donc ça
s'est
fait,
ouais,
taper sur les doigts par le Conseil mondial qui leur a dit ça suffit vos conneries.
Il
y a les passéistes qui trouvent que c'était beaucoup mieux avant. Du temps où les chats étaient sur une île et puis il y avait quelques humains qui les servaient. Donc eux sont pas nihilistes, il ne faut pas éradiquer tous les humains, il faudrait simplement réduire la population mondiale à un 20e et
d'accord,
puis les dominer directement.
Okay.
Il y a les esclavagistes qui disent que l'humain a été créé en tant qu'esclave, donc il n'y a pas de raison de liquider la population mondiale, il faut les utiliser comme esclaves, hein, c'est
voilà,
tout.
Uh-huh.
Il y a les progressistes qui disent que il faut reconnaître que l'être humain a tendance à prendre le pas sur nous les chats, donc qu'il va bien falloir leur dire un jour qu'on existe et qu'en plus on les a créés.
Oh.
Peut-être pas tout de suite parce qu'ils sont encore assez cons pour essayer de nous détruire, mais il va bien falloir préparer
le terrain.
Il y a les défaitistes qui disent que qui partent du même constat que les progressistes, mais qui disent que dans ce cas-là, vu qu'on a perdu, il faudrait abandonner la planète. Le seul problème, c'est que, un, ils ne savent pas sur quelle autre planète aller, et que la dernière fois qu'ils se sont fait voler un vaisseau spatial, il s'est crashé à Roswell, et ça a été bonbon pour faire croire que c'était les tigris et pas les chats, quoi. Donc, ils se sont fait aussi taper sur les doigts par le Conseil mondial, et ils essayent de faire des pattes et des griffes, pas des pieds et des mains, pour faire revoler un vaisseau spatial, pour aller trouver une planète où les chats pourraient s'installer tranquillement.
D'accord.
Il y a plein d'autres factions comme ça, mais généralement, les joueurs prennent des factions différentes, comme ça,
ouais,
et ils sont capables pouvoir tirer leur...
Ouais.
Leur épingle du jeu, oui, et faire avancer leurs idées par rapport à ce que
il y a tout de suite des antagonismes en fait.
Tout à fait.
Et donc du coup dans la résolution des scénarios, ils cherchent chacun à avoir ils ont chacun des méthodes différentes.
En fait, ça se met en place quasiment tout seul avec les joueurs. À chaque fois que j'ai pu le tester, c'était
oui.
Ils vont jusqu'au bout pour réussir la mission que leur a donné le Conseil de Paris.
Uh-huh.
Mais lors du débriefing, généralement, ils essaient de tirer la couverture à eux.
Uh-huh.
En s'arrangeant pour utiliser les fautes des autres ou pour encenser leur réussite, quoi. Donc, mais ça marche très très bien, ça faire confiance aux joueurs, ça part tout seul.
Il y a un petit côté INS où chacun.
Il y a aussi, en effet, il y a aussi.
Où chacun défend sa faction en plus du but commun, quoi.
Il y a à peu près ça, mais comme généralement j'ai dit, le chat est individualiste.
Uh-huh.
C'est d'abord pour sa pomme,
ouais,
éventuellement pour sa lignée, éventuellement après pour sa faction, et après,
ouais,
on verra bien, quoi. C'est à peu près l'ordre des choses.
D'accord. Tu vois autre chose à rajouter ?
Testez le jeu, comme ça vous verrez plus les chats de la même manière.
Oui.
Et je vous le dis franchement, une fois que vous aurez lu le bouquin, vous comprendrez beaucoup de choses sur les chats domestiques, de ce qui vous a échappé jusqu'à maintenant, quoi. Mais je prétends, et je reste à dire, que nous sommes plus ou moins l'esclave du chat. Il y a une petite citation que j'aime beaucoup dans le livre. Je crois que c'est de... Non, je ne sais plus le nom de l'auteur, en fait. Donc, mais ça dit, grosso modo, les chiens ont des maîtres et les chats ont des serviteurs. C'est tout à fait ça.
C'est exactement ça. Eh bien, sur cette magnifique citation, nous allons arrêter là. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi. Merci à la radio.
Et je vous conseille de jeter... plus qu'un œil, voire une griffe sur ce jeu dans votre boutique préférée. Allez, ciao,
ciao.